Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle aurait eu le privilège d'apprendre au roi Soleil l'art et la manière d'agir avec les dames. À 40 ans, elle aurait dépucelé le jeune roi Louis XIV à la demande de sa propre mère, la régente Anne d'Autriche. Je vous raconte la folle histoire de celle qui a fait fortune en servant de près Sa Majesté Catherine Henriette Bélier, dite Cato la Borgnesse. Nous sommes le 26 août 1660. Cet après-midi-là, le roi Louis XIV présente son épouse, l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, princesse espagnole, aux Parisiens, qui il n'y a pas encore si longtemps mené la fronde contre lui. Le couple royal traverse Paris, Louis XIV caracole sur son cheval, tandis que Marie-Thérèse avance dans un carrosse rutilant fait d'or et d'argent pour rejoindre le Louvre en passant par l'île de la Cité. Derrière eux, un cortège interminable les suit. Ils mettront plus de 4 heures à arriver. En tête de ce cortège se trouve la litière du cardinal Mazarin, restée désespérément vide. Le cardinal, vieilli et épuisé, préfère contempler le défilé d'un balcon de l'hôtel de Beauvais, rue Saint-Antoine, en compagnie de la reine, d'Henriette de France, du maréchal de Turenne et de leur hôtesse, une certaine Catherine Henriette Bélier, baronne de Beauvais, dite Cato la Borgnesse. Borgne, comme son nom l'indique, laide et lubrique, du moins c'est ce que l'on raconte, elle aurait pour titre de gloire d'avoir dépucelé le roi lorsqu'il avait 15 ans et elle 40. Catherine Henriette Bélier est née vers 1614 dans une famille au service de la couronne depuis plusieurs générations. Sa grand-mère paternelle était remueuse, elle nettoyait et changeait les langes du petit roi Louis XIII. La propre mère de Cato la Borgnesse occupe la charge de première femme de chambre de la reine Anne d'Autriche. Quant à elle, dès ses 11 ans, elle entre au service de la reine comme simple femme de chambre avant de devenir la première lorsqu'elle succède à sa mère en 1646. La première femme de chambre exerce de multiples fonctions. Elle est responsable de l'entretien du linge, apprête la reine et dort dans sa chambre à coucher ou dans une pièce voisine. Cato la Borgnesse administre aussi ses clistères à la reine de France. De quoi s'agit-il ? Un clistère est une espèce de grosse seringue en étain que l'on utilise pour administrer des lavements par le fondement. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris. En ce domaine, la reine apprécie particulièrement l'adresse de Cato la Borgnesse. Si elle entre dans son intimité, la première femme de chambre a aussi et surtout l'oreille de la reine, peut-être même les confidences de son alcôve. C'est un véritable atout pour se mêler aux intrigues de la cour. Mais cela n'est pas sans risque. En 1649, Cato la Borgnesse est impliquée dans l'affaire dite de Jarzé. René du Plessis, comte de Jarzé, tente de séduire Anne d'Autriche, devenue régente après la mort de son époux Louis XIII. Jarzé espère ainsi supplanter le cardinal Mazarin, principal ministre d'Anne d'Autriche et, dit-on, son amant. Pour s'approcher de la reine, Jarzé passe alors par sa confidente, mais Anne d'Autriche, indignée par le comportement du comte, l'exile de la cour. Le cardinal Mazarin la convainc aussi d'éloigner Cato la Borgnesse, qui s'est montrée complice du fautif. Un autre matin, Anne d'Autriche demande à son maître d'hôtel de faire sortir Cato la Borgnesse du palais royal avec l'ordre de rendre ses clés. Étonnée de cette disgrâce, alors qu'elle vient à peine de quitter la reine qu'elle a eu l'honneur d'habiller et qui lui a fait aussi bonne mine qu'à l'ordinaire, Cato la Borgnesse résiste quelque temps, prétendant vouloir voir sa maîtresse avant d'obéir. Cette scène a-t-elle réellement eu lieu ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que Cato la Borgnesse semble manquer à Anne d'Autriche qui la rappelle un an plus tard à son poste de première femme de chambre. Bien que d'un rang modeste à la cour, le lien privilégié que Cato la Borgnesse entretient avec la régente en fait une personne très recherchée. Elle sert d'informatrice au cardinal Mazarin, puis à Nicolas Fouquet, étoile montante de la politique, qu'elle tiendrait au courant de tout ce qui se dit et se fait dans l'intimité de la reine. Elle sert ainsi d'intermédiaire entre Anne d'Autriche et les courtisans, transmettant les requêtes qu'ils souhaitent lui adresser. Cato la Borgnesse profite de sa situation privilégiée à la cour pour favoriser aussi la carrière de son mari, le baron de Beauvais, devenu conseiller du roi en 1643, mais également celle de ses enfants, notamment son fils Louis de Beauvais, futur baron de Gentilly, dont on raconte qu'il serait le fruit d'une relation adultérine avec l'un des premiers valets de chambre de Louis XIV. Le petit roi Louis XIV, dont le jeune page ou valet intègre la maison alors qu'il n'a que 6 ans. N'ayons pas peur des mots. Cato la Borgnesse aurait la cuisse légère. Saint-Simon la qualifie pudiquement de plus que galante et Anne d'Autriche va utiliser la réputation de la dame à son avantage. Depuis le décès de Louis XIII, la reine assure, je vous le disais, la régence du royaume de France. Elle a donc pour mission de maintenir le pays tout en préparant le futur Louis XIV à son rôle de monarque. Anne d'Autriche suit donc de près l'éducation politique de son fils, mais veillerait aussi sur sa vie intime. De mauvaises langues assurent que c'est elle qui aurait demandé à sa première femme de chambre de déniaiser le roi âgé de 15 ans. Toute affreuse qu'elle était, le prince, étant fort jeune, l'ayant trouvé seul à l'écart dans le Louvre, elle le viola ou du moins le surprit en telle sorte qu'elle obtint ce qu'elle désirait, nous raconte Primi Visconti dans ses mémoires. C'est donc grâce à Cato la Borgnesse que Louis XIV serait devenu un homme. Mais c'est aussi à cause d'elle, vraisemblablement, qu'il serait tombé malade, nous raconte l'historien Michel de Decker. L'héritier du trône présente les symptômes d'une maladie vénérienne. Pourtant, le docteur Valot, chargé de veiller sur la santé de Louis XIV et sur celle de la reine-mère, ne peut y croire. D'autant qu'il est convaincu que son patient mène encore une vie chaste. Sans doute le roi fait-il trop d'équitation. Et le médecin lui prescrit un traitement pour le moins surprenant. Le jeune roi doit avaler quotidiennement une décoction de raclure de cornes de cerf et se masser l'organe malade avec un onguent à la base d'opiates roses de Provins. Fort heureusement, cette médication soigne le mal dont Louis XIV souffre et qu'il convient d'appeler par son nom la chaude pisse. De son côté, Cato la Borgnesse n'a pas à se plaindre des suites de sa royale aventure. Anne d'Autriche lui offre près de 3 millions de livres tournois. Avec son époux, le baron de Beauvais, ils se font construire un somptueux hôtel particulier rue Saint-Antoine, un quartier très en vogue. C'est sur l'un des balcons de cet hôtel qu'Anne d'Autriche assiste à l'entrée dans Paris de Louis XIV et de son épouse, l'infante Marie-Thérèse, le 26 août 1660. Il y a du beau monde pour acclamer le jeune couple. Outre la reine-mère, le cardinal Mazarin et le maréchal de Turenne sont là aussi. Mais le plus surprenant reste à venir. Se trouvent là, réunies par un hasard du destin sur ce balcon, quatre dames qui compteront beaucoup dans la vie sentimentale de Louis XIV. Marie Mancini, la nièce du cardinal Mazarin, et surtout premier véritable amour du jeune roi. Il y a aussi Henriette d'Angleterre, la belle-sœur de Louis XIV, dont on raconte qu'elle fut sa maîtresse. Madame Scarron, la future marquise de Maintenon, épouse morganatique du souverain dans ses vieux jours, est présente elle aussi. Enfin, le tableau ne serait pas complet sans la présence de la maîtresse des lieux, Cato la Borgnesse, qui aurait donc dépucelé le roi. Hélas pour elle, son influence à la cour va bientôt diminuer. À la mort d'Anne d'Autriche en 1666, Cato la Borgnesse perd sa charge de première femme de chambre. Qui plus est, elle est criblée de dettes et se trouve contrainte de vendre tous ses biens. Le roi, qui ne l'a pas oublié, intervient alors. Il rachète plusieurs de ses terres et lui fait un don de 4600 livres tournois. On dit qu'il la protégera jusqu'à sa mort, survenue plus de 20 ans après, en 1689. Probablement en souvenir du bon vieux temps. De nos jours, l'hôtel de Beauvais, au 68 de la rue, devenu François Miron, garde encore une trace de son passage. Sur les arcades de la cour d'honneur, un mascaron représente une femme, pour tout dire assez effrayante. Sans doute s'agit-il de Cato la Borgnesse, la première amante du roi Soleil.